c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Zoom Radio, la radio Hit and Style en Dordogne avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre jardinerie Ast Vert, votre spécialiste jardin, alimentation animale et motoculture à Saint-Astier.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Dordogne sur mariemorin.fr.
Merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Zoom Radio. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire eh bien, de cette nouvelle émission inédite de Chute, on écoute la télé, eh bien, dans un instant, nous allons recevoir toute l'équipe du film de Mounia Bedour, Papicha, avec notamment Lina Koudry, Shirin Boutella et bien d'autres encore. Un rendez-vous à ne pas manquer, c'est un de nos coups de cœur cinéma dans salle qui sortira bien sûr mercredi. Nous aurons le plaisir aussi dans nos coups de cœur télé aujourd'hui eh bien, de parler de Connexion Intime qui sera diffusée mercredi sur France 2 avec Luna Carpio qui sera notre invitée. On reparlera également de la série Pour Sarah, qui sera diffusée jeudi, c'est le final sur TF1. Caroline Anglade sera notre invitée. On parlera d'Ainsi Grand Soleil avec nos deux copines de l'émission, Jennifer Dubourg-Braconi et aussi Marthe Fieschi, qui seront avec nous. C'est les rôles de Léa et de Davia. Elles seront donc nos invitées. On parlera également de la sortie du livre de Véronique Geneste, Mes arrêts sur image. Véronique sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de son livre. Et puis enfin, eh bien, deuxième coup de cœur ciné en fin d'émission, nous parlerons du film Donne-moi des ailes, qui sort mercredi également dans les salles. Nicolas Vanier, le réalisateur, viendra nous parler eh bien, de la réalisation, de l'histoire vraie de ce film. Et on va évidemment évoquer la nature qui est au plus proche des films de Nicolas. Alors, rendez-vous à ne pas manquer en fin d'émission. Mais on va tout de suite commencer, comme d'habitude, avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences eh bien, de la semaine dernière, on va démarrer par TF1 lundi dernier avec Camping Paradis qui signe une belle audience, 3 962 000 téléspectateurs et 17,4% de part de marché. La série est talonnée de près par L'amour est dans le pré avec 3 741 000 téléspectateurs et 16,5% du public. The B sur France 2, petit score, 11,4% de part de marché et 2 616 000. C'est également un petit score pour France 3, les championnats du monde d'athlétisme avec seulement 7,6% de part de marché et 1 710 000 fidèles du sport. Sur mardi, eh bien, il y avait SWAT sur TF1 avec 3 829 000 téléspectateurs et 17,3% de part de marché. TF1 est un petit leader. Sur France 3, il y avait le prime de Plus belle la vie puisque les 5 épisodes de la semaine dernière étaient diffusés à la suite mardi soir avec quasiment 3 millions de téléspectateurs et 13,2% de part de marché. Recherche appartement ou maison sur M6 signe un score dans sa moyenne, 11,6% et 2 404 000. Quant au championnat du monde d'athlétisme, ça ne décolle toujours pas avec 8,4% de part de marché et 1 790 000. Mercredi, Good Doctor signe une belle soirée sur TF1 avec 20,2% de part de marché et 4 601 000 téléspectateurs. Alex Hugo s'en sort pas mal sur France 2, mais c'est une rediff avec 3 196 000 téléspectateurs et 14,7% de part de marché. Et c'est un record d'audience en part de marché pour le meilleur pâtissier sur M6 avec 13,9% de part de marché et 2 539 000 téléspectateurs. Et les scores remontent pour le championnat du monde d'athlétisme sur France 3 avec 10,2% du public et 2 239 000. Et jeudi pour Sarah, eh bien, c'est en tête des audiences pour TF1, 4 267 000 téléspectateurs, 19,4% du public. Meurtre en Cornouaille sur France 3 eh bien, fait un beau score, 12,2% de part de marché, 2 543 000 pour une rediff. Lyon sur M6, le très beau film. Film a bien fait un score plutôt pas mal, 2 389 000 téléspectateurs et 12% du public. Et sur France 2, eh bien, c'est à nouveau l'effondrement pour les championnats du monde d'athlétisme avec seulement 10% de part de marché, 1 678 000 téléspectateurs. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière. Et tout de suite, eh bien, on passe à notre spécial Papicha.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur cinéma cette semaine consacré au film Papicha. C'est notre coup de cœur cette semaine de ce film à ne pas rater. Un très joli film mis en scène par Mounia Bedour qui est avec nous. Bonjour Mounia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, avec son actrice principale Lina Koudry qui est avec nous. Bonjour Lina.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, je dis actrice principale, mais à la fois, c'est un film tellement choral. Un film de filles aussi. Et une plongée dans l'Algérie des années 90. Alors, dans un instant, Shirin Boutella, Amira Hilda, Douaouda et Zara Doumandji viendront également nous rejoindre pour continuer à parler de leur rôle, parler de leur film. Mais moi, j'aimerais déjà savoir avec toi, Mounia, comment est né ce projet.
Alors, c'est un projet qui est né il y a très longtemps. Hein. C'est un projet que je porte depuis 6 ans à peu près. Moi, j'ai moi-même donc vécu en Algérie dans les années 90. C'est un film qui est inspiré de mon vécu d'étudiante puisque j'ai habité dans une cité universitaire similaire à celle qui est décrite dans le film. Et donc, nous vivions avec d'autres étudiantes. Et donc, tout ce que vous voyez dans le film, tout ce que vous allez voir dans le film est quelque chose d'assez réaliste que j'ai eu la chance de vivre. Donc c'est parti d'une envie personnelle de transmettre cette période de l'Algérie, cette période que peu de gens connaissent ou que peu de gens ont vécu, on va dire, en tout cas ici en France. Du coup, c'était une envie, voilà, de transmettre cette partie de mon vécu et à travers un personnage assez solaire, qui est le personnage de Nejma, une héroïne qui va traverser comme ça l'histoire avec ses envies, avec cette façon de s'émanciper qui passe par la mode, par la création de son défilé de mode, qui est un rêve absolu.
Et ce rêve, voilà, on va le voir justement avec Nejma dans un instant. Le film a été tourné complètement en Algérie ou est-ce qu'il y a eu des scènes tournées aussi ailleurs ?
Non, le film a été tourné entièrement en Algérie. C'était l'une des plus grosses difficultés de production de ce film, puisque
c'est justement la question. Est-ce que c'est difficile de tourner tout là-bas ? Parce que je pensais qu'il y avait peut-être des scènes qu'on pouvait penser être en Algérie, mais qui avaient peut-être été tournées en France ou ailleurs.
Oui, non, tout le film a été tourné en Algérie. Toutes les séquences d'intérieur, cité universitaire, boîte de nuit, plage, la Casbah, Tipaza, ce sont des régions qui, pour moi, étaient très importantes. Et donc, le film a été réellement tourné là-bas. On avait pas mal de locaux qui nous ont aider pour que le tournage se passe bien, des relais locaux en termes de production, mais aussi des citoyens donc, qui ont participé au film. Et ce film donc, a été tourné il y a maintenant 2 ans et qui a été fini donc, au moment de la sortie de Cannes cette année.
Lina, oui, on va parler de Nejma. Comment tu la définirais au premier abord ?
Je la définirais comme forte, comme passionnée, avec beaucoup d'espoir. C'est très dur de définir comme ça en quelques mots. Mais oui, forte et passionnée.
Ta première rencontre avec Mounia, tu t'en souviens ?
Oui, je m'en souviens. Ma première rencontre avec Mounia, c'était à la suite d'un casting. On s'est rencontrés, on a bu un café, on a tout de suite parlé du film, du scénario. On est tout de suite rentrés dans le vif du sujet. Et après, s'en est suivi une belle histoire d'amitié, comme une grande sœur pour moi. Et c'est une grande réalisatrice qui m'a offert un rôle sublime. Donc c'est quelqu'un qui m'a fait un très beau cadeau. Et cette rencontre, voilà, elle perdure. Là, ça fait 4 ans et on se voit toujours autant. C'est pas parce qu'on a fini le tournage et fini le film qu'on s'appelle pas. On s'appelle tout le temps. C'est une très belle rencontre dans ma vie.
Mounia, Nejma, ça a été évident. C'était Lina ?
Oui. Alors, pour plusieurs raisons, je vais parler de Lina. Ce qui était très intéressant, c'était cette fraîcheur, cette fragilité, mais aussi cette force. C'est très contradictoire, mais c'est vrai que Nejma est un personnage très complexe. Et lorsque j'ai rencontré Lina, j'ai senti qu'il y avait cette fraîcheur, cette jeunesse, et en même temps, cette curiosité aussi de se réapproprier cette histoire qu'elle ne connaissait pas forcément directement, mais qui a nécessité pas mal de travail. Pour moi, effectivement, il y avait une évidence, on va dire, intellectuelle, physique, une évidence aussi au niveau de la rigueur, puisque on a énormément travaillé ensemble, il y a eu énormément de recherches, il y a eu pas mal de documentation, Lina a pris des cours de couture, Lina a pris des cours de dessin. Du coup, c'est vrai que voilà, c'était une vraie cohabitation pendant 5 ans et ça a continué sur la préparation du film, sur le tournage, et donc il y avait pas mal de ping-pong comme ça sur des dialogues, sur des répliques, sur des références. C'est une belle collaboration.
Bon, en tout cas, c'est une belle plongée dans l'Algérie des années 90. En même temps, c'est ton histoire, Mounia, et ça fait partie aussi de l'histoire de l'Algérie et de tout ce qu'elle a vécu pendant ces années-là. Je suppose que aussi la hâte, c'est de montrer le film aux Algériens et de voir leur réaction, bien évidemment.
Oui, alors ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience, puisque le film a déjà été projeté à Cannes, à Angoulême, et notre vrai prochain, challenge et la vraie prochaine rencontre sera avec le public algérien, puisque ce film parle d'eux. Et j'espère que les retours seront positifs, puisque en fait c'est un film qui va certainement être bien reçu par ceux qui ont vécu cette situation à l'époque et la nouvelle génération qui ne connaît pas forcément beaucoup de choses sur cette histoire-là. Et donc oui, on espère que ça va bien se passer.
Mais moi j'en suis sûr. Et dans un instant, eh bien, on va continuer à en parler. On va d'abord écouter la bande-annonce, puisque Papichard, eh bien, ça sort mercredi au cinéma. On écoute.
Un taxi clandestin, mais c'est cabaret.
T'as l'air de là.
Les ailes de la cité.
Je connais ma pile, la cité a débordé, la ciel ouvert.
هاك على اليوم تما بالبليس لاتا كيت تبع 100 بيدي نقولهم بلا جيم طالين واحد ما فقري
لا نجي نحل حانوت
سي كوا سا.
Allez, on va marquer une pause dans un instant. Shirin Boutella, Amira Hilda, Douaouda et Zara Doumandji vont venir nous rejoindre. Le reste du casting, je vous remercie beaucoup. Mounia, merci Lina d'être venue nous voir.
Merci, merci à vous. Merci, bonne projection.
Merci à vous.
Et puis on continue à en parler. N'oubliez pas Papicha, eh bien c'est mercredi au cinéma. On revient. À tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé. On va reparler de notre coup de cœur ciné cette semaine. Je vous rappelle, c'est Papicha qui sort dans les salles mercredi. Alors, on a planté un petit peu le décor hein, avec Lina et Mounia il y a quelques instants. Et on va continuer avec trois des actrices du film qui sont avec nous. Shirin Boutella. Bonjour Shirin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui joue le rôle de Wasila. Nous avons Amira Hilda Douaouda qui est avec nous également aujourd'hui, qui joue le rôle de Samira. Bonjour Amira.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et on a Zara Doumandji qui est avec nous aussi, qui joue le rôle de Kaina. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous toutes les trois. Première question que j'ai envie de vous poser, juste avant de parler de vos rôles respectifs dans Papicha, quel est votre parcours un petit peu au niveau cinéma, dans quoi on vous a vu avant? Est-ce que pour vous c'est des débuts? Comment ça se passe? Raconte-nous déjà, Shirin, pour toi.
Alors moi de base je viens du web, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur YouTube et Instagram, je fais un peu de beauté et un peu de make-up, tout ça.
Tuto, comme on dit.
Tout à fait, exactement, des tutos. Et j'ai commencé par faire de la série en Algérie, j'ai été repérée grâce à YouTube par une boîte de production. Et donc grâce à la série, à la directrice de casting donc de Papicha en Algérie, qui trouvait pas en fait sa Wasila, Mounia ne trouvait pas son personnage de Wasila. Donc on l'a proposé mon profil et le jour de l'entretien, ça s'est extrêmement bien passé. Et donc pour moi, c'est ma première expérience cinématographique. C'est une chance absolument incroyable de passer de la série à un film en plus qui... Voilà, je suis algérienne, j'ai vécu en Algérie, même si j'ai pas vécu directement les années 80, enfin, je suis née en 90, mais j'ai pas vécu le terrorisme et la décennie noire directement, mais il y a quand même quelque chose de très particulier, de très personnel, en quelque sorte, dans ce film-là, donc je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir en faire partie, surtout maintenant vu le parcours qu'on a, en plus que ça dure, mais c'est vraiment génial.
Bon, on va parler de Wasila dans un instant. Amira Hilda, raconte-nous un petit peu ton parcours à toi aussi.
Moi, j'ai commencé par le slam. Après, j'ai fait du théâtre et puis j'ai enchaîné des tournages de films, de cinéma, des courts-métrages. J'ai tourné aussi dans une série et là, je suis là avec les filles, avec le film Papicha.
Dans une série française ou...
Non, une série algérienne.
Ah oui, donc vous avez déjà un petit peu de carrière là-bas en Algérie. Pour toi, Zara?
Tout comme Shirin et Hilda, j'ai fait du théâtre. Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, le théâtre. Et ensuite, j'ai eu une expérience dans des films algériens. Et c'est la première fois que je joue dans un film belgo-franco-algérien.
Comment tu te définirais pour commencer déjà toi, Wasila, Shirin?
Alors pour moi, Wasila, c'est l'insouciance, c'est vraiment la jeune fille qui croit en tout ce qui peut être beau dans la vie, en l'amour, en l'amitié. Et effectivement, il y a toujours ce message d'espoir dans toutes les filles, dans tous les personnages du film, de façon très différente. Et j'ai adoré Wasila parce que ça me rappelle un peu quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu comme elle, j'étais un peu un petit peu dans ma bulle, un petit peu pour moi l'amour c'était vraiment l'objectif de ma vie, être heureuse amoureusement parlant, etc. Et à ça se mêle aussi tout ce qui se passe autour, donc l'environnement qui finalement est violent, qui finalement ne permet pas de rester aussi naïf qu'elle aurait voulu être. Et en plus de ça, il y a la relation amicale aussi qui est un petit peu compliquée à un moment donné parce qu'on se retrouve avec ses meilleurs amis à avoir des objectifs différents et des parcours de vie un peu différents. Et voilà, j'ai adoré vraiment jouer Wasila, surtout qu'il y avait une réelle complicité du coup entre nous. Au début, on a essayé de la forcer entre guillemets parce qu'il fallait qu'il y ait une réelle, qu'on soit vraiment proche pour que ça se retransmette dans le film. Et finalement, c'est vachement. D'abord, c'était avec Lina surtout parce qu'on était meilleurs amis dans le film, et puis après donc avec les autres filles, et ça a vachement bien matché. Donc on prenait énormément de plaisir aussi à jouer nos scènes ensemble, surtout quand c'était des scènes de complicité où on riait réellement et on s'amusait vraiment, et comme les scènes plutôt tristes et je ne veux pas spoiler, mais juste en lisant le scénario, il y avait à un moment donné, il y a eu un changement de scénario concernant Karina, vous verrez, et je n'étais pas dans la scène, mais ça m'a brisé le cœur et j'ai pleuré toute seule dans mon coin à côté parce que j'imaginais ma copine quoi. Donc c'était intense, c'était vraiment intense.
Pour toi, comment on définirait Samira, Amira Hilda?
Alors Samira, c'est une fille pudique et qui adore sa religion, qui est aussi tolérante, car on voit dans le film que Samira est très différente des autres filles. Voilà, c'est comme ça que je définirais Samira.
Et pour toi, Zara, tu définirais comment Kaina?
Alors le personnage que j'ai interprété, je le vois comme... celles et ceux qui ont souhaité partir de l'Algérie pendant cette décennie noire. Et Kaina, c'est un personnage qui a voulu partir, fuir l'horreur coûte que coûte. Elle était absolument déterminée, sûre de partir. Et au fil de l'histoire, ça représente aussi cet espoir, l'extinction de l'espoir qui est ravivée. Mais pour moi, c'est aussi un personnage qui montre cette extinction d'espoir qu'ont vécu les Algériens pendant cette décennie noire.
Oui, il s'est passé tellement de choses et en même temps, je trouve que l'Algérie des années 90 est très bien retranscrite dans ce film de Mounir. On en parlait il y a quelques minutes avec elle. Quel est votre plus beau souvenir de tournage pour toi, Chérine?
Alors, pour moi, c'était à la plage. Parce que c'était assez pénible, sachant qu'on avait enchaîné un mois et demi de tournage.
Arrête, plage pénible, ça va pas ensemble.
Oui, justement, l'eau devait être à 3 degrés, hein. Extérieur, il faisait aussi 5 degrés. Et voilà, on était un petit peu fatigués et on s'est levé très très tôt pour pouvoir tourner cette séquence tranquillement. Et finalement, c'était extraordinaire parce que vous savez, c'est quand on relâche en fait. Il y a beaucoup de choses qui se relâchent et c'était une séquence où on était que toutes les quatre et il fallait vraiment qu'on s'amuse le plus possible. Donc au début, on essayait. Et bon, allez, on rigole, allez, on fait, allez. Et en fait, ça venait tout seul. Et à la fin, on ne voulait plus sortir de l'eau alors qu'on était gelés. Mais on riait tellement. Et c'était pour moi le pur moment, même dans le film, je pense qu'on le ressent. Un moment de pur bonheur où plus rien n'existe. C'est-à-dire que même que ce soit l'horreur, que ce soit toutes nos vies en fait à côté, disparaissent. Il n'y a que nous quatre. Et la vie, et la joie, et l'amour, et l'amitié. Et j'en garde vraiment de très, 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 très bons souvenirs. Ouais.
On n'en doute pas, en tout cas, vous avez dû passer un bon moment. C'est un vrai soleil qu'on va vous proposer avec ce film, Papicha. C'est le film à ne pas rater. En tout cas, il sera dans les salles mercredi. Merci les filles, on va se requitter avec un petit extrait. Et je vous souhaite, en tout cas, on croise les doigts pour vous. À très vite, merci.
Merci. Merci. Merci beaucoup.
Tu veux prendre une balle, c'est ça?
Flachlas, ciel, Papicha.
Moi je suis bien ici. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va parler livre aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé avec Véronique Genest qui nous rejoint. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça y est, Mes arrêts sur image vient de sortir dans tous les bons espaces culturels, bien évidemment. Et là, eh bien, c'est un livre où tu te livres à cœur ouvert, où tu parles de toi, de ta famille, de ton frère, de tes parents. Voilà, c'est Véronique à cœur ouvert, moi je dirais un peu ce bouquin.
Ah oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que j'ai jamais voulu faire d'autobiographie, ça n'en est pas une, et ça j'y tiens beaucoup. C'est vraiment un ressenti. ressenti. J'ai essayé de me positionner à chaque fois dans chaque situation, à l'âge où j'ai vécu la situation, et simplement d'essayer de donner des ressentis, que ce soit sur le sentiment d'abandon, sur la perte de mon père. J'ai essayé d'étudier les choses de l'intérieur et de les mettre à plat et d'essayer d'en tirer des chemins de vie et des préceptes de vie qui m'ont aidé.
C'était le moment, c'était un besoin, un exutoire.
Alors c'est rigolo parce que non, on l'a créé le besoin, parce que j'écris toujours moi, j'écris sans arrêt, et mes arrêts sur image.
C'est pas le premier bouquin.
C'est pas le premier, mais mes arrêts sur image, c'est un titre que j'avais depuis longtemps parce que j'avais l'intention en fait de faire un livre où je prenais une grande malle dans laquelle j'allais mettre toutes mes photos, parce que je déteste regarder des photos anciennes, parce que je suis pas dans le passé, je suis plutôt dans l'avenir, et j'aime pas me voir à un certain âge, sauf quand j'étais petite ou alors que ce soit très loin. Et je me disais, je vais piocher comme ça des photos. Et je vais plutôt parler de l'instant de la photo. Je vais parler du ressenti, de l'instant, de ce moment de vie et peut-être même de l'époque qui était derrière cette photo et de tout ce que cette photo représente. Et voilà, donc j'avais commencé à écrire pas mal de petits passages. Moi, j'étais plutôt sur l'envie d'écrire un roman, un polar. J'adore les polars. Et puis, quelqu'un de Flammarion m'a approché pour ce sujet en me disant qu'elle aimerait que j'écrive ce sujet. Et donc, voilà. Et je me suis mis à réfléchir et ça a bien correspondu avec ce que j'avais envie de dire sur le moment. Et je me dis, tiens, je vais fouiller. Ça m'a pris 6 mois. Ça m'a fait beaucoup de bien, ce travail d'écriture. Beaucoup, beaucoup de bien. Et j'espère que ça fera autant de bien aux gens de le lire que ça m'a fait du bien de l'écrire.
Moi, je vous le conseille. En tout cas, beaucoup de fans, on t'a vu au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle en septembre. On voit toujours l'attachement très fort des gens envers toi. Presque 20 ans de Juliesco, 20 ans de Juliesco. Et pourtant, la série est arrêtée depuis maintenant quelques années. Et j'ai l'impression que la ferveur est intacte. Qu'est-ce que ça te fait, ça?
Ça peut pas faire autrement que plaisir. Puis j'ai l'impression de faire partie de leur famille. Alors moi, j'ai une très, très grande famille. J'adore les familles nombreuses, donc tout va bien. Donc non, je me sens très proche d'eux, en fait. Je me sens très proche des gens. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'être différent d'eux. Je suis heureuse que toute cette famille m'ait accepté, et même encore. Ça me fait plaisir, ouais.
Leur soutien a été capital pour toi quand la série s'est arrêtée? Des fans?
Oh oui, bon, c'est un choix là, c'est l'arrêt de la série, donc c'est pas, j'ai pas pensé dans ces termes-là, mais je crois que le public est très fidèle. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle aussi, et le public est très fidèle. Et puis je crois que le public, il se trompe pas. Il je crois que le public, il aime la sincérité, il aime la vérité. Moi, je suis un peu quelqu'un sans filtre. Bon, je dis des conneries aussi, hein, comme tout le monde, mais je les assume, mais je les accepte, et voilà. Et je crois qu'eux aussi.
Mes arrêts sur image, le bouquin vient de sortir. Quels ont été les premières personnes, à part toi évidemment, qui l'ont lu, quels ont été leurs retours?
La première personne à qui j'ai fait lire, c'est ma mère, parce qu'elle est beaucoup dans le livre et qu'elle en fait partie, forcément. Comme les rapports entre ma maman et moi sont excellents, mais compliqués des fois, j'ai tenu à ce qu'elle le lise, parce que je voulais pas qu'elle soit mise devant le fait accompli des secrets que je délivrais qui la concernent. Et ça s'est très mal passé. Ça s'est très très mal passé, mais... Comme j'avais décidé de le faire avec beaucoup d'amour et qu'on a, ça nous a finalement permis, ça a ouvert une discussion, ça a ouvert la discussion entre nous qui manquait. Et cette discussion a déclenché des choses extraordinaires. Et ce livre, c'est pour ça que je suis tellement heureuse de l'avoir écrit, c'est que finalement, il a servi à apaiser plein de choses avec ma maman, à se comprendre, à apprendre à s'accepter. Elle m'a fait un cadeau immense en acceptant que je livre tout.
Donc elle a compris au final.
Alors, on s'est compris, on s'est voilà, et l'amour s'est grandi.
Alors en tant que comédienne, il y a du théâtre aussi, hein, parce que il y a un automne et un hiver chargé, parce que je crois qu'il y a une tournée, oui, il y a plein de choses qui arrivent.
Bah il y a une année de tournée là qui est devant moi jusqu'en juin prochain, qui commence en novembre. Bon, je l'ai fait un peu remonter parce que je devais être sur une autre pièce à Paris, et puis finalement comme on n'a pas signé assez tôt, hop, j'ai fait remonter cette pièce là, et donc une comédie, un vrai boulevard, je dirais, voilà, un vrai boulevard qui a été écrit sur mesure. Les lectures qu'on en a faites, pour, je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie, donc je pense que ça va être extrêmement drôle, extrêmement drôle. Ça commence le 3 novembre. Je pense que les gens vont adorer. Mais c'est déjà, les réservations sont déjà bien barrées. Je pense que ça va être un carton.
Et puis alors, il y a quelque chose qui est chouette pour un comédien, c'est que par rapport à toutes les années que t'as passé devant les caméras ou que t'avais pas le regard du public direct, là au théâtre t'as vraiment les réactions directes du public, donc tu vois tout de suite ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas.
Mais je crois que c'est en ça que le théâtre est mon art préféré. J'adore être au théâtre. Pendant des années, cette passion que j'avais pour le théâtre, j'ai pas pu l'exprimer parce que j'avais beaucoup. Alors j'ai fait quelques pièces au fur et à mesure, en essayant de préserver du temps, mais c'était compliqué de tourner en même temps que jouer avec un enfant en bas âge. En plus, parcours très très compliqué. Et là maintenant j'ai plus le temps et je peux m'y consacrer, je peux enfin partir à la rencontre du public en province, que j'ai jamais eu le temps de faire. Et je dois dire que c'est carrément, enfin pour moi c'est, j'adore remettre tous les jours en jeu tout et aller plus loin et me battre pour les choses que je pense qui doivent marcher et qui n'ont pas forcément fonctionné. Voilà, j'adore ça, j'adore ça.
Eh bien écoute, Mes Arrêts sur Image, en tout cas ça vient de sortir. Les dates de la tournée, on va les donner tout de suite en Nouvelle-Aquitaine. Véronique, merci d'avoir été avec nous.
Merci, merci beaucoup. Et puis alors...
À très vite.
À très vite là, je reviens.
Oui, là maintenant on se quitte plus.
Pas longtemps, voilà.
À très bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on continue à parler de Connexion Intime, le film qui sera diffusé mercredi sur France 2 avec Luna Carpio qui est avec nous. Bonjour Luna.
Bonjour.
Qui est l'héroïne qui joue Chloé dans ce film. Comment t'es arrivée déjà dans cette aventure Luna?
C'est un petit peu par hasard, je cherchais un peu des castings comme ça, et du bouche à oreille, j'ai passé le casting pour Renaud et voilà.
Quand t'as lu le scénario et que tu t'es un peu imprégné du personnage de Chloé?
Moi j'aimais bien le scénario parce que c'est un sujet un peu tabou et justement moi j'aime bien quand c'est des sujets qui dérangent un peu parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, du coup j'aime bien. Après le personnage de Chloé est très loin de moi dans la vie et c'était aussi ça qui était intéressant parce que j'aime bien jouer un personnage qui n'avait rien à voir avec moi parce que c'était un vrai rôle de composition quoi.
Le tournage, comment ça s'est passé pour toi ?
Bien, c'était pas facile tous les jours parce que c'était un mois intensif où j'avais beaucoup de scènes émotionnellement assez dures, donc j'avoue que c'était pas facile à gérer, mais le tournage en soi s'est bien passé.
Il y a des scènes particulières que tu redoutais ou alors un fou rire qui s'est passé sur le tournage?
Je redoutais un tout petit peu les scènes un peu plus intimes, les scènes de nuit, etc. Mais en fait, ça s'est bien passé parce que c'est des scènes très précises et du coup, faut juste se laisser guider et donc voilà. Et j'avais vraiment confiance en le réalisateur Renaud Bertrand. Et c'était plus les scènes vraiment émotionnelles où je devais pleurer, où je devais... Ça, je savais que j'allais devoir aller chercher des choses en moi qui étaient un peu plus dures à faire sortir et un peu plus intimes. Du coup, ça, c'était un peu plus difficile. Mais ça a été.
Alors, c'est un sujet qui a très peu été abordé dans la fiction et c'est bien justement parce que la télévision aborde des sujets de société assez forts et celui-là, il s'agit aujourd'hui de traiter de la pornographie chez les ados. Et voilà, ça me semblait important à travers le regard de Luna, de Chloé et en même temps, eh bien, de Félix et ce triangle amoureux qui se met en place tout au long du film.
Ouais, tout à fait. Et ils ont chacun une vision différente par rapport à ça et ça parle vraiment parce que le personnage de Luna, elle est plus donc tout ce qui est cam girl, donc elle monte ça plus avec un écran, alors que Félix, il est vraiment accro au porno, c'est vraiment presque une maladie. Et donc le personnage de Chloé, elle débarque, elle voit tout ça, et enfin elle découvre ça au fur et à mesure, elle le voit pas directement parce qu'elle est un petit peu naïve, et elle découvre ça et c'est un peu un choc pour elle quoi.
C'est quoi ton parcours juste avant ce film ?
Juste avant, en fait, j'ai fait 10 ans de théâtre, mais j'avais tourné qu'un court-métrage. C'était mon premier tournage un peu important, on va dire.
C'est ton premier grand rôle, alors ?
Ouais, tout à fait. Et depuis, j'ai un peu tourné dans des séries, mais c'était à ce moment-là mon premier grand rôle. Ouais.
Une belle aventure, en tout cas. C'est quoi ton meilleur souvenir de tournage, justement ?
Mon meilleur souvenir, c'est quand c'est fini. C'est quand ça s'est fini parce que j'avais vraiment... c'était un mois intensif où je tournais tous les jours. Et j'avais vraiment la sensation d'avoir accompli quelque chose parce que quand j'ai commencé le tournage, j'étais pas sûre que j'allais réussir à finir tellement ça me semblait un truc énorme à faire. Et donc ça me faisait un peu peur. Et puis quand on a tous terminé et que tout le monde, il y avait une sorte de soulagement d'avoir réussi à faire ça, quoi.
On était sur tous les plans, oui, pour le coup. Hein, on te voit quasiment à toutes les scènes. Hein.
Ouais. Oui, c'était j'avais très peu de temps de repos et en plus c'était pas chez moi, c'était à Lille. Donc c'était vraiment immergé pendant un mois dans un univers complètement différent et j'aime bien aussi parce que ça permet vraiment de se mettre dans le film, mais du coup c'est vrai que c'était très intensif quoi.
Tes projets à côté, donc du coup t'as tourné dans quoi ?
Là j'ai tourné dans Laetitia de Jean-Xavier de Lestrade et
qu'on verra bientôt sur France 3.
C'est ça, tout à fait. Je tourne un rôle secondaire dedans et j'ai tourné dans Les Rivières pourpres aussi.
La saison 2 donc du coup ?
Oui, la saison 2, deux épisodes dans la saison 2. Et puis sinon j'ai fait un court-métrage.
C'est bien tout ça. Bah, écoute Luna, en tout cas on te souhaite plein de belles choses. Et découvrir cette aventure Connexion Intime, c'est mercredi sur France 2. Alors n'hésitez pas à aller le voir en famille. Je dirais presque même que ça peut servir pour être diffusé dans les lycées ou dans les collèges, moi je pense.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un sujet qui concerne pas mal, je pense, de jeunes. Et bon, après, je sais pas si les jeunes arriveront à en parler avec leurs parents de manière complètement libre, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant que tout le monde le voit dans la famille pour avoir conscience de ce sujet-là et que ça existe, quoi.
Merci à toi. En tout cas, on va se quitter avec un petit extrait. Connexion Intime, c'est mercredi sur France 2. Merci Luna, à bientôt.
Meuf, Chloé, non.
Ça reste là.
Toi, t'es sérieuse, vas-y, bois. Ça va?
C'est froid. À la cantine. Hein.
Y'a pas une charbette? Bon, raconte, t'étais où avant?
J'étais dans un petit bled de 800 habitants.
Ah ouais, putain, ça doit te changer, quoi.
Ouais.
Et tu vivais quoi, dans le village ou carrément dans la campagne?
Dans le village, sauf que j'avais un grand jardin.
Mmh. C'est cool, ça. Tu faisais quoi en dehors des cours?
Bah, mon père, il tient un centre équestre, donc quand je vais le voir, je monte à cheval.
Putain, c'est trop bien, ça, j'aimerais trop. Gros délire. Enfin, un petit peu un délire Belle des Prés, quoi. C'est ton cheval, ça?
C'est ridicule.
Mais non, trop bas. Il a chambé, non?
Ouais, grave.
Non, meuf, c'est grave cool. En plus, t'es ultra douée en maths, et tu sais quoi, ça, c'est ultra girl power. Et nous, on adore.
On adore.
Allez, on continue à parler de Pour Sarah, qui est diffusée jeudi sur TF1. Et c'est les deux derniers épisodes. Et c'est Caroline Anglade qui vient nous en parler cette semaine. Et on va faire un petit focus sur le personnage de Anne. Ouais. Bonjour Caroline.
Bonjour Alain, comment ça va?
Eh ben, je suis très heureux de te retrouver, comme d'habitude. Hein, tu es une habituée de l'émission. Ouais. Et moi, je suis toujours très heureux de te retrouver dans tes projets. Et là, c'est un beau projet, une plongée dans le monde de l'adolescence. Et là, tu joues la belle-mère de Cédric, qui est un des héros de l'histoire, bien évidemment, joué par Clément Rémiens, qui était avec nous il y a 15 jours.
Exactement. Je joue sa belle-mère. D'ailleurs, ça a été très agréable de tourner avec ce jeune garçon. Et donc voilà. Et donc là, à la fin, on arrive un peu à l'épilogue, hein, un petit peu à la fin de tout ça.
On va connaître le dénouement, enfin.
Enfin voilà, le dénouement. Et
on va découvrir ce qui s'est vraiment passé.
Voilà, ce qui s'est vraiment passé et l'enjeu de tous les personnages. Pourquoi à la suite de tout ça, donc leur destin, quoi. Où vont-ils aller? Tout ce que ça aura bouleversé chez eux, en eux, leurs décisions, leurs choix à travers tout ça.
Donc la boucle sera bouclée. L'avantage, c'est qu'on n'aura pas de questions en suspens. Donc là, c'est vraiment clos.
Je pense que c'est assez clair à la fin, même si ça reste quand même assez ouvert sur le fait que la vie continue après. Donc, mais en tout cas, on aura des réponses, quoi. Et une vraie fin. Après, libre cours à
notre imagination.
Notre imagination, exactement.
Qu'est-ce qui t'a séduit au premier abord dans cette histoire?
Alors, ce qui m'a séduit, c'est la complexité de ce personnage, parce que les parents tiennent un rôle très très important dans cette histoire pour Sarah, parce qu'au départ, voilà, c'est toute une bande de potes qui ont des enfants, qui sont très très liés à la suite d'accidents de leurs deux enfants. Tout ce groupe-là va être éclaté un peu parce que malheureusement, en fait, à un moment donné, on va devoir défendre nos enfants et donc du coup, ça va tout faire éclater. Donc on y perd beaucoup. Et ce que j'ai aimé, c'est que moi, en tant que belle-mère, j'ai d'autres enjeux aussi à côté à défendre et ça va remettre en question aussi toute ma vie privée, ma vie affective, mes engagements, mes choix. J'ai aimé ce côté un peu décalé. Elle est un peu discrétion parce qu'elle est mère, mais pas vraiment, puisque c'est plus une belle-mère, mais en même temps, elle l'a élevée comme son propre fils. Et en même temps, à un moment donné, il y a une distance qui se fait parce que ça va tellement soulever énormément de choses, cet accident, qu'à un moment donné, je vais devoir prendre du recul aussi pour moi. Enfin, c'est dur, sans trop en dire, en fait, c'est dur, mais voilà. Donc, du coup, j'ai aimé cette complexité de personnage, la discrétion de ce personnage, et en même temps, sa force, parce qu'à la fois, à la fin, on découvre sa force, ses enjeux, ses choix, et elle va pas déroger, quoi. Elle va se dire, OK, moi, maintenant, je suis obligée de faire des choix. Donc, elle est assez forte, tout en étant discrète, et j'ai aimé ça, quoi.
Alors, moi, il y a une chose que j'ai l'impression. C'est que t'as un potentiel comique énorme, ouais, au cinéma, et que le cinéma il vient plus souvent te chercher pour des rôles de comédie, ouais, alors qu'à la télé, on l'a vu avec Une mère sous influence, ouais, en mars l'année dernière, et puis là maintenant pour Sarah, on vient te chercher dans des rôles un peu plus graves.
Ouais, c'est vrai que là à la télé, ça y est, ça commence, on commence à m'envisager beaucoup plus dans des drames, dans des fictions un petit peu plus sombres. Alors que cinéma, pour l'instant, c'est beaucoup de la comédie. Et tant mieux, parce que j'adore ça.
C'est-à-dire mais aussi entre les deux, remarque.
Complètement. Et quand je fais une comédie, j'ai envie de faire un drame. Quand je fais un drame, j'ai envie de retourner après dans une comédie. Donc si je peux aussi entre les deux, ça me va bien, quoi.
Quel est ton meilleur souvenir de tournage sur Sarah?
C'est les nombreux fous rires avec Thomas Joanet, qui fait mon partenaire, donc mon mari. Et
Vous connaissiez avant?
Non, pas du tout. C'est une rencontre et je le connaissais d'avant parce que je connaissais ton travail. On m'avait dit que c'était un partenaire génial. À ce point-là, je ne savais pas. Et on a ri, mais ri pendant 2 mois, non-stop. Il est fou, il est gentil, il est généreux, il est génial. Et du coup, alors qu'on avait des scènes à jouer pas du tout faciles, on pouvait quand même se détendre entre les prises parce qu'on se marrait comme des fous. Et pareil avec les filles, hein. Or, Attica, Audrey, Dana. Audrey, elle est complètement pétée du casque. Elle est géniale. Et c'est très, très positif, hein, dans ma bouche. C'était des partenaires en or, les jeunes. Enfin, toute l'équipe était dingue. Mais c'est vrai que comme mon partenaire principal était Thomas, je garde en tête de nombreux fous rires.
En tout cas, une belle aventure. Des projets pour 2020, raconte-nous, et pour fin 2019.
Alors, beaucoup de sorties, là, déjà. Vers mars, il y aura la sortie de Divorce Club de Michael Youn. Vers mai, je pense, il y aura la sortie de Tout Simplement Noir de Jean-Pascal Zadi. Donc ça, c'est des projets cinéma. Je suis actuellement aussi sur Netflix, dans La Grande Classe, qui est diffusée sur Netflix. Donc c'est un long métrage, voilà. Donc il y a eu pas mal de sorties et là, les choses sont à venir. Mais pour l'instant,
Non, faut tourner.
Je touche du bois, il faut les tourner. Exactement.
Bon, merci Caroline en tout cas d'avoir été avec nous. On va regarder un petit extrait pour Sarah, épisode 5 et 6, c'est jeudi à 21h05 sur TF1. Merci infiniment et à très bientôt.
Merci Alain. Merci.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que c'est ?
Ce poster est là pour te motiver, parce que le moral c'est l'essentiel. Une fois que tu sauras faire tout ça, tu pourras quitter l'hôpital.
Jamais je reprendrai une vie normale.
Mais si ! Et tu te souviens que le week-end prochain c'est la bonne partie ? Peut-être que si tu progresses bien, tu pourras y aller ?
Ça me paraît un bon objectif.
Allez, zoom sur Un Si Grand Soleil, votre série qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2, avec une petite interview en duo avec deux comédiennes de la série. Jennifer Dubourg-Braconi qui est avec nous, bonjour.
Bonjour Alain, comment tu vas ?
Ça va très très bien, merci d'être avec nous. Et Marthe Fieschi qui est avec nous aussi, bonjour Marthe.
Bonjour Alain.
Ça va bien depuis l'année dernière aussi ?
Ça va très bien, je suis ravie de te revoir.
Nous aussi, et on va s'intéresser un petit peu au rôle de Davia et de Léa justement. Alors Davia, on l'a pas vu beaucoup tout au long de l'été, mais alors ça a été une rentrée... Sans faire de jeu de mots, saut de tension, on peut dire comme ça. C'est pas mal ça.
Oui, oui, l'électrocution avec quelqu'un pour balancer un verre d'eau sur un panneau en feu, c'est Davia, bah forcément. Oui. Voilà, bon après c'est anecdotique, hein, c'était pour nourrir l'intrigue bien sûr qui pesait sur la menace du couple Bastide. Mais heureusement, on va voir Davia dans des intrigues un peu plus profondes que l'électrocution un petit peu plus tard. Et ça me fait plaisir d'avoir des choses un peu plus importantes à venir qui vont être jouées et je suis contente.
Donc là, en cette rentrée, ça tourne ?
Alors, ça va tourner cet hiver, pas tout de suite dans l'immédiat parce que j'ai vu les auteurs et le producteur hier. Et donc, en fait, ils hésitent encore sur deux arches, deux intrigues. Donc, le choix n'étant pas encore fait, on peut pas encore programmer de début de tournage. Donc, peut-être fin d'année, début d'année prochaine. Donc, c'est sûr que par contre, en diffusion, ce sera peut-être début 2020.
En tout cas, Davia reste à l'écran de temps en temps. On arrive à la voir régulièrement quand même. Alors une avec qui a fait son retour un petit peu aussi avec cette rentrée, c'est le rôle de Léa qu'on n'a pas vu de l'été non plus.
Non, parce que j'étais en train de tourner.
C'est bien ça, ça c'est une bonne raison. T'as tourné quoi de cet été, raconte-nous.
Eh ben, on a tourné notre intrigue avec Fred, donc qui joue le rôle de Virgile, puisqu'il y a le passé de Virgile qui ressurgit et des choses importantes qui vont sortir là.
Et là, ça va avoir du retentissement sur toute la famille. On recevra d'ailleurs Fred aussi. Pour nous en parler la semaine prochaine pour ce début d'intrigue. Beaucoup de scènes avec Fred Bianconi, justement, Marthe. On dirait vraiment le père et la fille, hein, finalement.
Oui, on est vraiment un duo qui s'est trouvé parce qu'on s'adore dans la vraie vie. On a une complicité dans la vie qui se ressent à l'écran, je crois, parce que beaucoup de gens nous disent qu'ils aiment notre duo. Et ça nous fait très plaisir parce que nous aussi, on aime notre duo. On se nourrit tous les deux beaucoup. C'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Et je crois qu'on se donne beaucoup tous les deux et c'est très agréable.
Ça va être électrique entre le père et la fille, hein. J'ai l'impression dans les semaines qui arrivent là.
Ça va être super électrique, on a tourné des scènes qu'on a vraiment hâte de vous montrer.
Heureuse de faire partie de cette incroyable aventure maintenant, plus d'un an, puisque la série a fêté son anniversaire le 27 août dernier.
Ouais, non mais carrément, trop contente, les un an, mais ça passe très vite et on espère que ça va durer longtemps. Et
apparemment, vu les résultats des audiences, je pense que ça va durer longtemps.
On va suivre cette intrigue avec attention à partir du mois d'octobre, entre Léa et Virgile, il va y avoir de l'électricité dans l'air. Quant à toi, ça y est, t'as réussi à te remettre de ce choc électrique et on va finir par vos projets les filles.
Sur le projet sur Un Si Grand Soleil, Davia, elle va avoir donc dans les prochaines intrigues, même si c'est entre deux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une galère amoureuse qui l'attend.
Encore. Elle
sera mêlée encore sur un sujet actuel. Oui, une galère amoureuse, sinon c'est pas Davia, ça peut pas fonctionner. Mais il va y avoir une belle histoire d'amour avant que ça se transforme en galère. Et ce sera mêlé avec son frère, puisqu'en fait, ça touchera à la justice. Et pour une fois, c'est pas Davia qui va se mêler des histoires amoureuses de son frère, mais c'est son frère qui va dire hop, 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 ça va changer un petit peu. Voilà. Mais j'en sais pas plus. Là, je t'ai dit tout ce que je sais, quoi.
C'est très bien déjà. Et c'est magnifique déjà. Des projets, ouais, en dehors de ça, donc est-ce que ça vous laisse le temps pour tourner d'autres choses ?
Bah oui, moi là je viens d'apprendre hier que j'étais confirmée pour le pilote d'une série de science-fiction qui va se tourner en anglais, donc j'espère que vous verrez ça bientôt.
Very good.
Very good.
Tu parles couramment anglais, j'espère ?
Ouais, on va bosser un peu l'accent parce qu'ils m'ont dit qu'au callback j'avais en face de moi une fille qui a grandi à Sydney.
Tu parlais franglais ?
Bah, et qui parlait vraiment très très bien anglais. Moi, je suis pas complètement bilingue, je parle bien, mais du coup, je vais travailler beaucoup pour ce rôle et je suis très contente de pouvoir défendre. C'est le rôle d'une jeune journaliste et je suis contente de pouvoir défendre le rôle d'une jeune femme plutôt que d'une adolescente. Ça va faire un contraste et c'est agréable.
Bien, ça fait comme ça quelque chose de différent.
Exactement. Alors moi, sur mes projets, je vais tourner une pub pour la sécurité routière où joue une infirmière. Ensuite, toutes les comédiennes d'Un si grand soleil, je pense que tu es au courant, on va faire des photos pour Octobre Rose. Donc voilà, après je pense que je vais me remettre au one man show que j'avais mis un peu de côté pour la série. Donc là je suis en réflexion sur l'écriture. Voilà, il y a la page blanche qui est ouverte et les idées qui commencent à venir sur le petit carnet, ça écrit. Et puis personnellement, enfin, j'ai été heureuse d'apprendre que je devenais la marraine de l'association France Parkinson et pour eux, je vais courir les 20 km de Paris là en octobre et je vais aussi courir Marseille-Cassis fin octobre. Donc j'ai aussi de la prépa physique au-delà des projets professionnels.
Voilà, c'est bien tout ça. Bon, ben merci en tout cas à toutes les deux d'être passées nous voir. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite à Montpellier ou à La Rochelle, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera très bientôt dans l'émission. À très vite.
À très vite. Merci.
Elle va mieux?
J'ai appelé l'hôpital et le médecin m'a dit qu'il y avait vraiment peu de chances pour qu'elle passe le week-end.
J'ai un énorme service à te demander.
Par contre?
Ça va être comme ça entre nous, hein? Je crois pas que moi je l'attends sur mon canapé comme ça, rien foutre.
Je pense qu'elle m'a menti. Je voudrais vraiment savoir ce qu'elle est venue foutre à Montpellier.
Et nous, on revient dans un instant avec Nicolas Vanier pour notre spécial Donne-moi des ailes. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine, eh bien, il est consacré à Donne-moi des ailes, le nouveau film de Nicolas Vanier, qui est justement notre invité aujourd'hui. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est toujours emporté dans des aventures absolument incroyables qui nous font voyager, qui nous font rêver, des espèces de fables que vous nous faites vivre. C'était le cas avec Belle et Sébastien, L'école est buissonnière et tellement d'autres films. Et là, eh bien, ce nouveau film Donne-moi des ailes ne déroge pas la règle. On va encore faire un magnifique voyage.
Oui, bah c'est plus qu'une fable, parce que c'est un film qui se base sur une incroyable histoire vraie, une histoire que j'ai vécue moi-même en volant avec Christian et avec ses oies. Et c'est vrai que en ayant volé avec ses oiseaux, en ayant caressé ses oiseaux en plein vol, en ayant ressenti tout ce que j'ai pu ressentir, j'ai eu envie, en redescendant sur terre, on va dire, de pouvoir partager ce moment absolument incroyable que j'ai vécu au travers d'un film. Et donc je me suis basé sur cette histoire vraie, effectivement, d'un homme qui avait pour ambition de sauver une espèce en voie de disparition, Dieu sait si c'est un sujet d'actualité, pour faire autour de ça un film en plus de cette magnifique histoire vraie. Voilà, une histoire de famille, de transmission, d'amitié.
Alors comment vous avez choisi justement votre Christian du cinéma, Jean-Paul Rouve?
Ben, j'avais besoin, entre guillemets, de quelqu'un qui soit capable d'être ce que je suis moi-même, c'est-à-dire un enfant dans le corps d'un adulte, quelqu'un capable de s'émerveiller pour des choses qui peuvent paraître à certains adultes blasés, totalement futiles. Et Jean-Paul a cette capacité à pouvoir s'émerveiller de petites choses qui sont extraordinaires, aussi extraordinaires que la naissance d'un oiseau qui, avec son petit bec, perce une coquille. On a l'habitude, effectivement, de voir Jean-Paul dans des comédies avec le talent qu'on lui connaît, mais moi, je sais aussi, et il le montre dans ce film, sa capacité à pouvoir émouvoir. Et c'est un film, je crois, je l'espère, qui est aussi très émouvant au travers effectivement du parcours de ce personnage qui, avec ses tout petits moyens, alors que personne n'y croit, et c'est là l'histoire vraie de Christian, va réussir quelque chose d'absolument incroyable, parce que notre drame brûle, c'est pas très grave, hein, on va pouvoir la reconstruire. Une espèce qui disparaît, on aura beau dépenser des milliards, c'est pour toujours. Et c'est cette histoire-là dont parle aussi le film.
Alors, je crois que vous avez aussi voulu, à travers ce film, rendre hommage évidemment à la Ligue de protection des oiseaux aussi, hein, qui est partenaire du film, qui vous soutient aussi. Et vous allez être partenaire de plusieurs associations.
J'ai pour ambition, effectivement, avec ce film, de parler d'un sujet extrêmement grave qui me préoccupe tout particulièrement. Moi qui ai passé toute ma jeunesse dans la ferme de mon grand-père à regarder la nature, les oiseaux, les cerfs. Savoir qu'aujourd'hui, un tiers des oiseaux ont disparu, que vraisemblablement, pour ne pas dire inéluctablement, un second tiers va disparaître. La question est de savoir aujourd'hui si nous allons pouvoir sauver le dernier tiers. A priori, non, puisque rien ne change, rien ne bouge. Il y a des gens qui se bougent, comme la Ligue de protection des oiseaux, comme beaucoup d'autres associations. Donc effectivement, avec ce film, autour de ce film, on a cherché à créer des partenariats pour essayer de faire entendre cette voix le plus fort possible, de façon à faire prendre conscience aux gens qu'il n'est pas possible d'envisager que dans quelques années, quelques dizaines d'années, on se réveille un printemps avec des matins silencieux. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable.
Le tournage vous a emmené jusqu'en Norvège, il y a toute une partie du film qui a été tournée en Norvège.
C'est un grand voyage que nous avons effectué effectivement avec les oiseaux, qui est le voyage que ces oiseaux migrateurs suivent, qui est un voyage qui les emmène à travers tous ces sublimes paysages qui se trouvent entre effectivement la Laponie et la Camargue. Et donc nous avons avec les oies, en ULM, petitement, à 40, 50 km heure, effectué tout ce voyage avec nos moyens techniques considérables aujourd'hui qui permettent justement d'avoir des images qui sont assez époustouflantes et qui, je l'espère, permettent au public de pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti moi-même en volant avec les oiseaux.
Vous avez été obligé, hein, je crois, Nicolas, pour le coup, de faire quelques jours de tournage, d'arrêter, de reprendre, parce qu'il fallait attendre que les oies grandissent, je suppose, pour le coup. Vous ne pouviez pas utiliser plusieurs troupes d'oies, parce qu'elles étaient imprégnées, pour le coup, les oies que vous aviez prises dès le début. Donc ça a créé quelques petites difficultés pour faire le tournage en continu, pour le coup, ou pas ?
C'était très, très, très compliqué, mais c'était surtout très, 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 très passionnant. Parce que effectivement, on peut pas tricher, c'est-à-dire que nous avons dû vivre au rythme de ces oiseaux. Nous n'étions pas prêts pour la naissance des oisillons. Il aurait fallu raisonnablement reporter le tournage d'une dizaine de jours. Mais on pouvait pas le faire. On pouvait pas demander aux oiseaux de naître 10 jours plus tard. Donc il a fallu travailler jour et nuit, passer des nuits blanches pour être prêts. Il a fallu donc s'adapter. Lorsque les oies étaient en capacité de pouvoir commencer à voler, eh bien, il fallait voler. Donc, c'était passionnant parce qu'on a une fois de plus, parce que c'est un petit peu une marque de fabrique dans mes films, vivre au rythme de la nature, vivre au rythme des oiseaux, prendre comme des cadeaux les caprices de la nature qui font que lorsqu'on s'attend à avoir du beau temps, c'est pas forcément du beau temps, on s'adapte. C'est un tournage où il a fallu une fois de plus demander à toute l'équipe, aux comédiens d'avoir cette
flexibilité aussi.
Cette flexibilité, cette humilité, ce respect qu'il faut avoir vis-à-vis des oiseaux de la nature qui ne vont pas à la commande faire ce qu'on leur demande, mais qui peuvent, si encore une fois on appréhende ça avec beaucoup de respect, offrir des cadeaux tels qu'on en a eu sur ce film beaucoup.
Donne-moi des ailes, ça sort mercredi au cinéma et on va tout de suite écouter la bande-annonce.
Je peux pas m'occuper de toi pendant les vacances, donc tu vas aller chez ton père, à Saint-Romain.
Mais non, c'est mort, je reste pas ici. Hein. Ouais, maman, je m'ennuie. Viens me chercher, s'il te plaît.
Qu'est-ce que tu fais toute la journée dans le garage ?
Je fais un truc secret dans le garage. Certains oiseaux reconnaissent pour parent la première personne qu'ils voient. Donc là, techniquement, t'es son père.
Tu vois cette espèce d'oie, elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elle le suive, il faut que je leur montre la route.
Pour la Norvège, c'est évident, ils veulent pas sur ton truc. Hein.
Mais bien sûr. Hein.
Jeg trodde vi var enige om at du ikke skulle slippe ut de der gjessene uten min tillatelse.
Qu'est-ce qu'il fait là?
Peut-être prendre les oies.
Non, attendez. Stop.
Voilà, de retour avec Nicolas Vanier. Je vous rappelle notre coup de cœur ciné. Hein, c'est Donne-moi des ailes, cette semaine, au cinéma. Le film à ne pas rater. Si vous aimez la nature, les oiseaux sauvages, si vous aimez effectivement les films de ce genre-là, bien voilà, Nicolas est le réalisateur qu'il vous faut. Il va vous emmener dans une fable, dans une histoire merveilleuse au cinéma. Quelles ont été les difficultés rencontrées peut-être sur le parcours du retour, notamment entre la Laponie et en vol, notamment? Est-ce qu'il y a des anecdotes particulières ou un tournage qui a dû être interrompu par exemple par les conditions climatiques où il a fallu faire atterrir tout le monde? Comment ça s'est passé?
Ce qui était très compliqué, c'est effectivement, les oies ne volent que dans certaines conditions atmosphériques, de pression, de vent. Et lorsqu'on a les contraintes qui sont les nôtres, avec une grosse équipe de tournage, des comédiens, un plan de travail, certains jours, pour ne pas dire certaines semaines, sont totalement interdites au vol. Il faut donc s'adapter souvent à la dernière minute. Et même lorsque toutes les conditions semblent réunies, il y a, je dirais, même au-delà des conditions, parfois une question d'humeur qui font que, pour des raisons que l'on ne comprend pas toujours, qu'on ne sait pas toujours, les oies ont pas trop envie de voler. Dans ces cas-là, bah, faut respecter, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui... est facilement appréhendable lorsqu'on n'a pas une équipe de tournage. Ça l'est beaucoup plus avec une équipe. Donc il y a eu effectivement, notamment en Norvège, lorsqu'on se trouvait dans ces fjords avec des conditions de vent atmosphérique compliquées, que tout était rassemblé et qu'il nous manquait un petit élément qui pourrait être, et ça a été le cas, l'humeur des oies, c'est parfois un petit peu rageant. Mais encore une fois, on ne peut pas appréhender un tournage comme celui-ci en ayant une mentalité qui est « je veux ».
C'est comme ça que ça se passe.
C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est en ça aussi que c'est passionnant.
Fred Sorel, Mélanie Douté, Grégory Baquet, le jeune Louis Vasquez aussi, qui est époustouflant dans le rôle du fils de Jean-Paul Rouve. Est-ce que Louis a gardé Aka? Une petite question qui tue. Parce que voilà, on sent vraiment que Louis s'est amouraché de cette oie. Louis n'est pas une oie sauvage pour le coup.
Non, Louis n'a pas gardé Aka, tout simplement parce que Louis va à l'école, que Aka a besoin de voler comme un chien de traîneau a besoin de courir.
Il était triste de la quitter après le tournage.
Oui, mais lorsque l'on sait les choses à l'avance, je dirais qu'on s'y prépare. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un déchirement qui est de toute façon un déchirement assez brutal, qui est celui que l'on connaît tous d'une équipe de tournage 24 heures sur 24 ensemble et qui, en l'espace de 5 minutes, presque 10 minutes, tout le monde s'en va, tout le monde s'éclate. On sait que ça ne recommencera jamais. Il y aura d'autres tournages avec des personnes différentes, mais voilà. Et c'est vrai que ça participe aussi la séparation avec les animaux avec lesquels on a tourné. Tout ça, c'est voilà, il y a un début, il y a une fin, mais il y a aussi une continuité avec le film. On sait tous Louis le premier, qui effectivement est époustouflant dans ce film, donnait beaucoup de mal pour que ce film existe, pour pouvoir faire passer aussi, parce que c'était important pour nous tous, les messages qu'on entend faire passer au travers de ce film. C'est ça qui est important.
Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas, d'être venu nous parler. Donne-moi des ailes, c'est mercredi dans les salles. Ne le ratez pas. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à 2 jours de la sortie du film?
Merde.
Et ben voilà, c'est le mot de la fin. On se requitte avec un petit extrait de Donne-moi des ailes, mercredi dans les salles.
Thomas!
Vous restez bien avec moi, hein, les filles.
Il est où, mon fils?
Traverser la mer du Nord.
Mais la mer du Nord, non, mais c'est une blague.
Non, mais ça va aller.
Non, mais quoi, ça va aller? Mais t'en sais rien si ça va aller, Christian.
Cette formidable aventure connaît un retentissement extraordinaire.
Faut qu'il redresse vers l'est, parce que sinon, c'est plein de mer.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, eh bien encore 2 coups de cœur ciné, rien que pour vous. Nous les consacrerons notamment au film Camille, qui sortira le 16 octobre au cinéma. Ce très beau film avec Nina Meurice, qui sera notre invitée, accompagnée du réalisateur Boris Lotchkin. Et puis nous aurons également le plaisir de consacrer une large partie de cette émission au film Faïm de Pierre-François Martin Laval, qui sera notre invité, avec le jeune comédien qui joue Faïm et le comédien qui joue son père, Mizanour Rahman. Un rendez-vous bien sûr à ne pas manquer. Fred Bianconi de la série Ainsi Grand Soleil joue Virgile et bien sera également notre invité. Alors vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Moi, je vous retrouve demain sur Zoom Radio à partir de 10h45 et 12h30 pour les quotidiennes. Pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé, on se retrouve lundi prochain dès 18h. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et à demain.
chute, on écoute la télé. Avec votre jardinerie Astvert, votre spécialiste en négoce de noix pour particuliers, en paiement comptant à Saint-Astier.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Dordogne sur mariemorin.fr.